Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Vivante Église. Aujourd'hui, je reçois l'association de Lourdes Cancer Espérance. Le cancer, une maladie redoutée qui touche des millions de personnes à travers le monde chaque année. Elle est l'une des principales causes de mortalité. Elle se manifeste par la multiplication rapide, incontrôlée de cellules anormales connues sous le nom de métastases. Les cancers les plus courants, cancer du sein, cancer du poumon, de la prostate. La lutte contre le cancer implique des efforts médicaux et scientifiques, un soutien psychologique pour les patients, leurs familles et leurs proches. Cependant, aujourd'hui, de nombreux cancers peuvent être efficacement détectés grâce aux avancées et aux programmes de dépistage. Je reçois pour ce plateau de Vivante Église le président de l'association de Lourdes Cancer Espérance, Pierre Happe. Bonjour, Pierre Happe. Alors, vous avez vous-même, et on en parlera au cours de cette émission, accompagné votre épouse en 2023. Elle était atteinte d'un cancer ORL. Elle est décédée en décembre dernier. À vos côtés, et c'est une parole de femme que nous aurons dans ce plateau de Vivante Église, bonjour Daniel de Mendité.
Mendite. Bonjour.
Alors, vous êtes hospitalière à l'accueil Notre-Dame, donc dans le sanctuaire. Vous êtes bien engagée et vous nous le direz dans l'association de Lourdes Cancer Espérance. Et vous avez aussi connu l'épreuve du cancer, 2-3 cancers, et vous êtes actuellement en récidive, mais vous prendrez la parole dans quelques minutes. Dans ce plateau Vivante Église, un troisième invité, un docteur, le docteur Hervé Gauthier, oncologue médical. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors vous avez exercé, pratiqué durant 40 ans.
Oui.
Et vous avez perdu votre épouse il y a 3 ans d'un cancer du pancréas. Alors, Pierre Happe, racontez-nous l'histoire de l'association et de ce pèlerinage qui existe. C'est le 39e aujourd'hui de Lourdes Cancer Espérance. On vous écoute et merci.
L'association a été créée essentiellement à l'initiative d'un homme, un hospitalier de Notre-Dame de Lourdes, qui a subi un cancer du cervelet, qui a eu de très nombreuses opérations, et qui, en tant que chrétien engagé, ne se retrouvait pas dans les pèlerinages, entre guillemets, dits classiques, et qui a décidé, avec un groupe d'amis, en 1985, de créer l'association Lourdes Cancer Espérance. La première année, en 1986, il réunit 342 pèlerins. Aujourd'hui, 39 ans plus tard, 39e pèlerinage, 4000 pèlerins. On considère qu'il y a à peu près 2000 malades. On n'identifie pas qui est malade ou pas. On a uniquement, sur 3000 pèlerins, 700 personnes qui viennent avec un dossier médical, voilà, qui est sous pli confidentiel, en cas de souci. Voilà, ils ont, et on leur demande de venir avec leur dossier, ou nous transmettre leur dossier médical. Voilà.
Alors, quels sont les objectifs de ce pèlerinage sur une durée de 5 jours, Pierre ?
Ah ben, les objectifs, c'est oser la confiance. Oser la confiance, confier nos peines, nos difficultés à Marie. Et elle est là pour nous accueillir et pour nous donner des grâces. Des grâces. Et ça, c'est des petits cadeaux qu'on a à Lourdes et nulle part ailleurs.
Quels sont les temps forts de ce pèlerinage ?
Il y a énormément de temps forts. Les temps forts les plus importants, c'est d'une part toutes les célébrations eucharistiques. La plus forte émotion, c'est le vendredi après-midi lors de l'onction des malades. L'année dernière, nous avions plus de 800 malades qui ont demandé l'onction des malades sur 4000. C'est un moment qui se vit de manière collective parce que c'est un sacrement, l'onction, qui est partagé avec généralement un parrain ou une marraine, ce qui permet de garder des contacts d'une année sur l'autre. C'est une chaîne d'amitié, voilà. près de plus de 800 onctions de malades. C'est un moment très très fort. Il y a d'autres moments très forts. La prière du chapelet à la grotte, qui est depuis 2 ans animée par l'association Lourdes Cancer Espérance. Cette année, c'est Monseigneur Persereau qui préside notre pèlerinage, qui est l'évêque de Nantes. Voilà. Autre moment fort, c'est peut-être pour moi c'est une première. Le mercredi, il y a ce qu'on appelle la conférence du médecin. Et cette année, nous avons la chance d'avoir le président national de la Ligue contre le cancer qui vient parler de l'aide aux malades et des soins de support. Voilà. Et c'est très attendu de la part de nos pèlerins et de nos malades. Autre temps fort, tout de suite après le chapelet, c'est une petite séquence qui dure 1h30. Ce sont ce qu'on appelle des carrefours avec des thèmes d'échange. Et là, ça dure, c'est des petits groupes de 6, 8, 8, 10 personnes. Et là, il n'y a aucun tilt, il n'y a aucun tabou. Les pèlerins, les malades parlent de manière très spontanée de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu, de leurs angoisses, de leurs attentes. Et ça, c'est un moment de grâce à Lourdes, qu'on a nulle part ailleurs. Voilà. Mais des temps forts, il y en a énormément.
Merci, on vous retrouvera dans quelques instants. Pierre, je me tourne donc à vos côtés. Côté à votre droite, c'est Daniel qu'on retrouve. Daniel, je vous ai présenté comme hospitalière à l'accueil Notre-Dame durant ce pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance. C'est une longue histoire. Comment avez-vous découvert Lourdes Cancer Espérance? Racontez-nous et merci.
J'ai découvert Lourdes Cancer Espérance après avoir été moi-même touchée par le cancer. J'avais été opérée d'un cancer du sein donc en 2006 et ensuite j'avais été opérée à nouveau en 2008. Et lorsque j'étais hospitalisée, en fait, je m'étais rendu compte que j'étais vraiment en confiance à l'égard du milieu médical et que le fait d'être en confiance me permettait d'aider les personnes qui partageaient ma chambre, par exemple, qui étaient elles-mêmes anxieuses en vue de l'intervention, de l'opération et des suites. Et cela m'a permis d'essayer de les rassurer, de leur apporter un petit peu de décrispation, de détente, de s'oublier un petit peu. Voilà comment ça s'est passé. Je me suis rendu compte que c'était une sorte de grâce que j'avais reçue. Et après donc cette intervention, après avoir été guérie, eh bien, je me suis dit que j'aimerais bien transmettre cela, pouvoir faire fructifier un petit peu cette grâce. Et c'est comme ça que, par hasard, avec mon époux, nous avons découvert dans le journal La Croix, il y avait un encart dans ce journal sur Lourdes Cancer Espérance. Voilà comment j'ai découvert cette association. Et que j'y suis entrée en tant qu'hospitalière avec mon époux en 2008 et nous y sommes restés, nous y sommes toujours.
Alors, la maladie, vous connaissez, Daniel?
Oui.
Vous avez eu 2-3 cancers, vous êtes en récidive actuellement?
Oui, c'est exactement cela. J'ai donc été opérée 2 fois en 2006-2008, puis je me considérais vraiment comme guérie. Et en 2019, en fait, il s'est avéré que j'étais atteinte d'un cancer du côlon. Et après avoir été opérée de ce cancer du côlon, on s'est rendu compte que j'avais métastasé au foie. Donc j'ai été opérée du foie après avoir suivi des séances de chimiothérapie. C'était en 2020.
Alors c'est un très bon résumé, rapide que vous faites, mais comment avez-vous traversé toutes ces épreuves de la maladie, ces traitements qui provoquent parfois et bien souvent de lourds effets secondaires et douloureux?
Ben, j'ai la chance d'être entourée par ma famille, par mon époux, par mes enfants, d'être entourée également par mes amis. Dans un premier temps, au tout départ, en fait, je n'avais pas du tout parlé de la maladie. Je me suis rendu compte que autour de moi, et je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne chose, qu'il vaut mieux être très clair avec cela. Et mes enfants même m'avaient reproché de ne pas leur avoir véritablement dit ce dont j'étais atteinte, et ou de l'avoir fait, mais sans dire réellement, en essayant d'atténuer les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est beaucoup mieux d'en parler, de le dire sans aller trop loin.
Donc dire la vérité.
De dire la vérité.
Voilà. À son entourage,
voilà.
C'est plus proche.
De recevoir la vérité de la part des médecins, mais de dire soi-même la vérité à son entourage, de façon que les choses soient beaucoup plus claires et l'entourage préfère qu'il en soit ainsi. Et on reçoit beaucoup de choses de la part de l'entourage, c'est évident. Donc ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Je ne commettrai pas cette erreur. Voilà, de ne pas le dire. D'ailleurs, maintenant, je viens d'apprendre, j'ai appris il y a un mois que j'avais une récidive de cancer du sein, donc le premier cancer dont j'avais été atteinte en 2006. Et je n'ai pas hésité à le dire aussitôt, sans insister, bien évidemment, mais je le dis autour de moi et je rencontre beaucoup d'échos, beaucoup de soutien. Et c'est extrêmement important d'être soutenu par les autres dans cette maladie.
Alors, merci. Vous restez avec nous, Daniel. À vos côtés, je retrouve Pierre. Pierre, vous êtes le président de Lourdes Cancer Espérance et vous avez vécu le décès de votre épouse qui est décédée il y a tout juste en décembre dernier. Elle était là lors du dernier pèlerinage. Elle était à vos côtés, 53 ans de mariage, 53 ans de vie commune, avec ses joies et ses peines parfois. Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout et vous avez, je crois, en fait un beau témoignage. Lourdes Cancer Espérance est entourée de personnes où l'espérance est au bout de la route. Racontez-nous un peu l'épreuve de la maladie et l'éruption de la maladie brutale de votre épouse Marie-Andrée et jusqu'au bout, vous l'avez accompagnée.
Juste un petit retour en arrière. Notre fille aînée, Marie-Pierre, est fiancée en 1997, et son fiancé décède en moins de 9 mois d'un cancer très, très agressif au niveau du cerveau. C'est la révolution et la révolte dans la famille. Mon épouse infirmière est révoltée et elle en parle un peu par hasard à une religieuse qui elle se connaît bien et s'apprécie, qui s'appelle Sœur Cécilia. Et Sœur Cécilia lui dit: je t'emmène à Lourdes. Je t'emmène avec une association, Lourdes Cancer Espérance. Et mon épouse, qui était infirmière, elle me dit: oh, j'y crois pas tes histoires-là. Bon, pourquoi pas, mais je vais en tant qu'infirmière hospitalière. Parce qu'elle avait su tout de suite qu'il y avait une équipe d'hospitaliers, d'hospitalières, qui sont accueillis à l'accueil Notre-Dame, là où Daniel intervient en tant que bénévole, en tant qu'hospitalière. Et donc, elle est venue pendant 6 ans en tant qu'infirmière hospitalière. Et puis, elle m'a entraîné dans sa suite. Et j'ai suivi, parce qu'on avait une relation de confiance et d'amour, où on donne sans compter. Voilà. Et puis, il y a moins d'un an, donc en décembre 2022, enfin un peu plus d'un an, 2022, mon épouse a une très très forte douleur qui va croissante de jour en jour ou de semaine en semaine, au niveau de la langue. Et une tumeur cancéreuse qui se développe au niveau de la langue, donc cancer dit ORL. Bon, elle a très mal, elle peut quasiment plus manger, mais la langue ne change pas d'aspect. La langue se durcit sur à peu près le tiers de la langue. Le diagnostic tombe très rapidement, heureusement. Elle est très bien prise en charge avec une opération très longue de 14 heures. De microchirurgie pour retirer la tumeur et reconstruire la langue avec ce qu'on appelle une greffe de lambeau, voilà. Mais l'opération dure très longtemps parce que il y a toute la chaîne ganglionnaire au niveau du cou qui est aussi atteinte. Derrière, mon épouse est d'une remarquable acceptation au sens résilience. Elle est très forte. Elle accepte la chimiothérapie, la radiothérapie, plusieurs mois d'alimentation par sonde nasogastrique, puis par sonde abdominale. Les choses commencent un petit peu à rentrer dans l'ordre, et quasiment trois mois date à date après les fins des traitements, scanner de contrôle, et là, premier doute ou redoute, avec une suspicion de lésion au niveau du larynx, ainsi qu'au niveau, et ça c'était au mois de juillet de l'année dernière, et suspicion au niveau du poumon. Le temps des examens, les premiers diagnostics tombent juste avant le pèlerinage, il y a un an. Voilà. Mon épouse est abattue, mais elle remonte tout de suite la pente, parce qu'elle dit, de toute façon, je n'ai pas le droit d'abandonner mes amis. On était 45-50, je crois 55 l'année dernière, parce qu'entre-temps, elle avait pris en charge la délégation de Lourdes Cancer Espérance. L'association Lourdes Cancer Espérance est organisée autour de 78 délégations en France, en Belgique, en Suisse et à Monaco. Donc elle avait pris quelques années auparavant la responsabilité de la délégation et elle me dit, je veux faire ce pèlerinage avec mes amis. Certains faisaient le pèlerinage depuis 5, 6, 10 ans. Voilà. Et donc on fait ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, notre dernier pèlerinage ensemble. Voilà. Et là, il y a deux moments de grâce que je garde à vie. Le premier, c'est le jeudi après-midi, au moment du chapelet, où nous nous retrouvons tous les deux au fond de la grotte et on dit le chapelet. On est blottis, il pleut des cordes ce jour-là. Docteur Gauthier est à côté de nous, il s'en souvient, il pleut des cordes. On est blottis et c'est une séquence hors du temps. Et on s'est dit tous les deux, mais il faut que ça dure ça. Il y a une grâce qui nous enveloppe. Voilà. Cette grâce, on la retrouve dès le lendemain avec tout le groupe de l'Ordre Cancer Espérance de l'Essonne, puisqu'on est de l'Essonne, voilà, où mon épouse ayant demandé l'onction des malades, elle reçoit l'onction des malades, on pleure tous les deux comme des gamins, mais aussi beaucoup d'amis autour de nous, beaucoup d'amis pleurent, voilà. On ne sait pas à ce moment-là que c'est notre dernier pèlerinage. Bon. Mais quand les diagnostics tombent début ou mi-octobre, mon épouse me dit...
Donc, juste après le pèlerinage.
Juste après le pèlerinage.
Oui, ah oui. Le cœur est prêt.
Elle me dit, parce qu'on avait nos petits noms, moi j'étais Fat, elle c'était Dai. Elle me dit, Fat, qu'est-ce que t'en penses? C'est nos trois enfants qui avaient trouvé ces petits noms quand ils étaient jeunes. Ben, je lui dis, écoute, Dai, je crains que ce cancer ait repris sa place et repris son bonhomme de chemin. Elle me dit, j'ai l'impression que le compte à rebours est enclenché. Je lui dis, madame, c'est pas impossible. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois les choses? Je lui dis, écoute, madame, ça fait 53 ans qu'on est ensemble, on fait équipe. Que le compteur temps tourne encore pendant un an ou 10 ans, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je lui dis, on fera équipe jusqu'au bout et je serai là jusqu'au bout. Malheureusement, le compteur temps s'accélère et après de nouveau 15 jours d'hospitalisation, elle sort un jeudi soir, et le samedi, en début d'après-midi, heureusement, je n'étais pas tout seul, il y avait l'infirmière qui terminait des soins, et mon épouse est confrontée à une très grosse hémorragie. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe dans un premier temps. En fait, j'ai su tout de suite après, lorsque le médecin du SAMU est arrivé, elle a fait une hémorragie, parce que la tumeur s'était redéveloppée autour de la carotide. Et donc, elle a été confrontée à une rupture de la carotide. Et c'est comme ça que je le vois au jour d'aujourd'hui, et je le verrai jusqu'à la fin de mes jours. Cette grâce de Lourdes, reçue quelques semaines auparavant, me permet de lui dire, calmement, elle me regarde. Je dis ça avec beaucoup d'émotion, parce que c'est normal. Je lui dis, Madaille, je comprends ce qui se passe, c'est tellement violent. Je dis Madaille, je dis même Madaille de cœur, j'accepte par amour que tu rejoignes la maison du Père. Elle me regarde, elle comprend ce que je lui dis, elle ferme les yeux pour toujours, et je récite derrière, avec beaucoup d'émotion, un Je vous salue Marie. Ça, c'est une grâce que Marie m'a donnée.
Nous terminons cette première partie avec ce très beau témoignage. Et merci Pierre Abbe de nous témoigner au fond ces quelques mois d'accompagnement, ces derniers jours, ces dernières heures et ces dernières secondes où, quelque part, vous donnez cette épouse. Daniel, Pierre, et puis nous retrouverons juste après cette pause musicale dans ce Vivante Église que nous consacrons à l'association Lourdes Cancer Espérance. Et sachez-le, notez-le aussi dans vos calendriers, ce pèlerinage national a lieu la troisième semaine du mois de septembre. Nous retrouvons dans quelques minutes le docteur Hervé Gauthier au micro de Vivante Église. À tout de suite.
Alléluia, alléluia, on veut briller notre...
Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce magazine de Vivante Église consacré à l'association de Lourdes Cancer Espérance, un pèlerinage aussi national a lieu tous les ans dans le sanctuaire marial de Lourdes, et c'est au mois de septembre, la troisième semaine de septembre. Je vous propose de retrouver dans cette deuxième partie d'émission le docteur Hervé Gauthier, qui a été oncologue pendant près de 40 ans. Bonjour docteur Gauthier, rebonjour. Vous n'avez pas encore pris la parole dans ce Vivante Église du jour. Qu'est-ce que, en 40 ans de carrière, 40 ans de pratique, de soins, d'accompagnement, d'écoute et au fond de spécialiste, que pouvez-vous dire à ceux et celles qui vous écoutent? On est parfois un peu terrifié par tout ce qui est médical, terrifié par la maladie et l'irruption de la maladie. Alors aujourd'hui, nous parlons aussi de ce cancer, de ces cancers. On vous écoute. Retour sur 40 ans de pratique de métier.
40 ans de pratique dans ce domaine-là me permet de dire qu'il y a eu effectivement des progrès très importants, puisque quand j'ai commencé, les traitements médicaux étaient très débutants et balbutiants et peu efficaces, et nous n'avions pas les traitements de la douleur et encore moins les traitements d'accompagnement, des soins de support qui se sont développés plus récemment. Donc je ne vais pas faire d'historique, mais penser à la période actuelle. Et c'est vrai que le cancer maintenant n'est plus une maladie en soi, ce sont des cancers, parce que chaque cancer est, pour chaque personne est différent. Ce qui a permis, grâce à la découverte par la génétique et les biologies moléculaires, d'identifier d'une manière plus précise chaque maladie pour chaque patient, et donc de personnaliser les diagnostics et de personnaliser les traitements. Alors aussi un point important, c'est on ne soigne pas une maladie, on soigne une malade avec sa personnalité, son histoire, sa psychologie, son environnement, et donc c'est une prise en charge globale qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est comme le disait tout à l'heure Pierre, ça a débuté par cette rencontre avec des patients à la fin du XXe siècle qui ont permis de montrer d'une manière plus précise les attentes des patients et de faire modifier les pratiques avec les différents plans cancers qui ont lieu jusqu'à maintenant et qui sont maintenus, consultation d'annonce dont les malades ont besoin pour qu'on leur précise le diagnostic et puis qu'on leur précise le traitement, et puis aussi toutes les concertations entre spécialistes qui permettent d'homogénéiser et de donner des diagnostics très précis. Il y a aussi un point important, c'est la vérité que tout à l'heure a été soulevé à propos du diagnostic du cancer du sein qu'on a Daniel. Évoqué initialement. C'est vrai que au début, quand j'ai commencé, on ne donnait pas les diagnostics, on ne donnait pas la vérité par rapport aux pronostics. C'est bien que entre les soignants, les patients, la famille, il y avait très peu de communication. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'en fait, il y avait un mutisme qui s'installait. Et donc, les personnes malades, comme les familles, souffraient encore beaucoup plus de cette absence de connaissance parce qu'ils ne savaient plus quoi échanger et il n'y avait plus rien à se transmettre. Donc, très rapidement, moi, de mon côté, comme d'autres, on a décidé d'aborder le diagnostic avec plus de vérité, en tenant compte, bien sûr, de la psychologie de la personne. On ne peut pas dire la vérité de la même manière à tout le monde. Il faut vraiment connaître le patient. Or, en cancérologie, on est amené à suivre les patients pendant très longtemps. Donc, on a le temps de les connaître mieux, de connaître leur environnement, leur problématique personnelle, et donc d'adapter petit à petit la connaissance du diagnostic qu'on veut leur communiquer, et même le pronostic. Je pense qu'il faut être clair, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut être très clair pour que la personne puisse vivre sa vie jusqu'au bout dans les meilleures conditions. Moi, j'avais l'impression qu'au début, on volait la vie des personnes et que beaucoup mouraient avant d'être morts. Et maintenant, je pense que pour la plupart, eh bien, ils peuvent vivre leur vie jusqu'au bout, dans la mesure où, évidemment, dans le contexte actuel sanitaire qui est un peu plus compliqué, il faut qu'on ait le temps, les moyens de maintenir ces progrès qui ont été obtenus dans les dernières années.
Alors, je crois que vous me parliez hors antenne aussi d'une création d'une consultation de famille.
Oui, ça m'avait justement bousculé de voir que le rapport entre et les relations entre famille et patient et même soignant n'était pas tout à fait clair, suffisamment clair, chacun pouvant dire quelque chose de différent et perturbant le malade et la famille. C'est vrai que quand une aide-soignante passait dans une chambre, puis l'infirmière, puis le médecin, puis éventuellement un agent de technique de surface, chacun disait son mot et le patient était un peu perturbé par des phrases qui n'étaient pas cohérentes. Donc, dans certains cas, pas pour tous les personnes, quand je voyais qu'il y avait une difficulté, bien, je réunissais donc les familles avec les patients, les médecins, l'infirmière, le kinésithérapeute, psychologue, etc. Tout un ensemble, et on mettait tout à plat pour que tout le monde soit au courant de la même chose et parle le même langage pour que ça soit très clair et qu'on puisse trouver des appuis les uns sur les autres, les uns avec les autres.
Et toujours pour le bien-être du malade.
Oui, parce que le problème, c'est que, comme les Anglais disent, cure and care, on a les soins, mais il y a aussi l'accompagnement. Et l'accompagnement est très important, et aussi un des grands bénéfices de nos dernières années, c'est tous les soins qu'on apporte parallèlement aux soins spécifiques et qui permettent d'améliorer la tolérance au traitement et également la qualité de vie et voire même l'espérance de vie lorsque certains soins de support sont effectués de manière très cohérente et précoce.
Alors, c'est plein d'espérance hein, pour ceux et celles qui vous écoutent, docteur Hervé Gauthier. Quand on parle de maladie, quand on parle aussi du cancer, on parle des soins, parfois des soins lourds, mais parfois la finalité, c'est la mort, c'est ce deuil. On a peur d'aborder ce sujet.
Oui, évidemment, la finalité, c'est la mort. Mais heureusement, il y a des guérisons qu'on espère dans les meilleures conditions possibles. Il faut éviter les complications, les séquelles qui peuvent exister. Il faut les prendre en charge également. Mais la mort est quelque chose qui fait peur. Parce que dès qu'on prend ce cancer, évidemment, le patient et sa famille évoquent tout de suite d'emblée la gravité du pronostic.
Donc, on accompagne bien aussi les familles, les malades eux-mêmes, donc les patients, dans cette réflexion qui peut, malheureusement, on donne de l'espérance. Mais la mort existe.
Oui, il ne faut pas la dire.
On en a peur. On parlait de tabou de la maladie, mais il y a un grand tabou. C'est la mort aujourd'hui dans notre société.
Oui, c'est vrai que il y a l'espoir qui est important, mais il faut convertir cet espoir aussi en espérance. Et c'est ce que j'avais découvert au cours de mes années de cancérologue. Grâce à un comité de la Ligue contre le cancer dans lequel j'étais administrateur puis président, qui soutenait le pèlerinage depuis très très longtemps, soutien d'abord moral et financier, et puis grâce à un administrateur du comité qui est le président du pèlerinage, je suis venu l'année dernière pour faire la première conférence médicale et qui m'a permis de voir l'importance de la relation qu'on doit établir avec les personnes malades pour leur apporter les informations nécessaires à la compréhension et en même temps aussi une présence affective presque à leur côté pour les aider à faire face à la maladie dans toutes les composantes, non seulement somatiques mais aussi mentales et psychologiques de leur maladie.
Daniel, vous êtes en récidive de votre cancer du sein. On vous a entendu tout au début de ce magazine de Vivante Église. Comment arriver à préserver une qualité de vie au quotidien quand on vit, hein, et vous vivez cela actuellement, puisque la nouvelle et l'annonce a été faite il y a tout juste un mois, ce quotidien-là, avec cette récidive d'un cancer du sein.
Alors, ce qui est extrêmement important, c'est le fait d'être accompagné médicalement déjà. Le fait d'être en confiance dans le milieu médical dans lequel on se trouve, c'est particulièrement important. Et puis, il y a des moyens complémentaires également quand on est atteint par une maladie, de se faire aider. Ça peut être de la naturopathie, ça peut être de l'homéopathie, ça peut être de l'acupuncture, etc. Donc, il y a un ensemble de choses que l'on peut mettre en place. Oui, il y a aussi le fait de l'entourage, la manière dont on parle avec l'entourage, dont l'entourage nous parle. C'est un accompagnement qui est vraiment très important aussi. Mais je crois qu'il faut toujours être en vérité, rester en vérité.
Ça, c'est un point que vous teniez à souligner oui. très fort dans cette émission. Donc, oui. Pour tous nos auditeurs, auditrices oui. qui vous écoutent, oui. Votre message aujourd'hui dans cette émission, c'est faire la vérité, être dans les vérités.
Oui, être soi-même en vérité et que nos accompagnants soient dans la vérité aussi, qu'on ne cherche pas à nous cacher, à diminuer les choses, de même que tout le personnel soignant. C'est très important.
Vous souhaitez réagir, docteur Hervé Gauthier ?
Oui, ça me paraît essentiel. Tout à l'heure, je disais que l'accompagnement était un point important qu'on avait acquis dans les dernières années. C'est cet accompagnement, évidemment, médical, mais également par l'ensemble des soignants, qui doivent être cohérents par rapport à cette prise en charge, et également avec les membres de la famille ou des aidants, quels qu'ils soient. Et les aidants aussi ont besoin d'être aidés, parce que aider, c'est quelque chose de difficile. Il faut assumer le diagnostic, voir comment on va réagir par rapport à ce diagnostic. Quelqu'un qui apprend que son conjoint a un cancer, et lui-même, ça le remet en question par rapport à lui-même et par rapport à, évidemment, son conjoint. Et donc, il faut faire un accompagnement, non seulement de la personne malade, mais aussi de son environnement. Et donc, là, de multiples expériences permettent de voir dans ma pratique que c'était essentiel d'intégrer tout l'environnement familial, social, pour que la clarté soit faite dans la relation et soit la plus précise possible pour qu'elle se passe dans les bonnes conditions. Et ça améliore considérablement la qualité de vie et même l'espérance de vie. Les soins de support qu'on évoquait, qui sont, en dehors de ce qui a été évoqué, des soins non médicamenteux, il y a l'activité physique, il y a la psychologie, il y a la nutrition, etc. Et on sait très bien que, par exemple, l'activité physique augmente les bénéfices de guérison des cancers du sein de près de 6% et la diminution de la rechute de 50%. Donc, ce sont pas des choses qui sont à négliger.
Donc il y a des chiffres, hein, et des constats et des résultats.
Oui.
Vous avez été vous-même, donc docteur Gauthier, confronté. Vous avez été confronté au décès de votre épouse, donc il y a 3 ans, décédée d'un cancer du pancréas. Ça a été brutal, cette irruption de la maladie. Vous étiez préparés l'un et l'autre.
C'est vrai que, étant le mari de mon épouse Marie-Pierre, cancérologue, et elle suivant beaucoup mon activité quand on en parlait, elle était au courant de tout ce qui se passait, à la fois des difficultés et des avancées. Et quand elle a appris par elle-même le diagnostic de cancer du pancréas avec métastase hépatique, elle savait très bien que le cancer qu'elle présentait était très grave et qu'elle ne vivrait pas au bout de quelques mois de traitement, même si ces traitements au début pouvaient apporter un bénéfice. Donc d'emblée, elle connaissait la gravité et la mortalité qui la menaçait. Et donc, elle a décidé d'aborder ça d'une manière très positive. Elle était à la fois en pleine connaissance et en même temps animée par une foi très intense. Et donc elle m'a dit, anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure, que quand elle a pris le diagnostic, elle m'a dit, moi je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère, je suis une grand-mère, je suis une femme de lettres, et c'est donc pas ce, et je m'appelle Marie-Pierre, et c'est pas ce petit cancer de 4 cm qui va me modifier la vie et qui va avoir ma peau. Et donc elle a décidé de plus parler de son cancer jusqu'à la fin. Et donc, heureusement, dans une période de 6 à 8 mois, ça s'est bien amélioré sous chimiothérapie. Mais comme ce cancer, habituellement, le fait, ça récidive très très vite. Et quand la récidive est arrivée, elle a décidé de ne pas continuer les traitements, en toute connaissance de cause. Et là, la vérité est essentielle à partager. Elle a décidé de ne pas continuer les traitements pour ne pas subir les complications des chimiothérapies, sachant que celle-ci avait très peu de chances d'être efficace. Et ce qui lui a permis de vivre dans des conditions tout à fait acceptables les derniers mois de sa vie, et je voulais le dire d'une manière étonnante, qui m'a beaucoup surprise, mais avec un courage extraordinaire. Et elle, pour elle, donc animée par cette foi, elle disait que bon, la mort c'est pour tout le monde, mais en fait le plus important c'est l'amour, et donc je vais vers quelque chose qui correspond à un amour parfait. Ne vous inquiétez pas, je serai encore plus proche de vous qu'avant. Donc c'était ça qui était important, parce qu'on est passé de l'espoir déçu par l'échec à l'espérance qui transcendait la difficulté et nous a remis aussi dans une dynamique de vie qui fait que la vie ne s'arrête jamais.
C'est un beau témoignage d'espérance. Vous avez des points communs, Pierre et Hervé, ici en plateau, hein, près de 50 ans de vie commune, l'un pour l'autre, une épouse qui disparaît, mais avec des caractères forts, et au fond, c'est l'espérance au bout pour chacune. Oui, je me tourne vers vous, Daniel. Alors, vous êtes en récidive, mais vous avez un époux. Comment votre époux, à vos côtés, traverse l'épreuve que vous traversez au quotidien, instant après instant?
Il fait vraiment corps avec moi, ça c'est évident. Il est totalement avec moi, il est totalement présent. Et tout à l'heure, on parlait de cette notion de vérité. Nous ne nous cachons rien l'un à l'autre. C'est extrêmement clair, comme le précisait tout à l'heure Hervé. Et j'ai bien conscience que ce n'est pas facile pour un conjoint de traverser cette épreuve. Également, parce que nous-mêmes, nous sommes pris dans le monde, dans le milieu médical, on écoute nos médecins, on suit ce qui nous est conseillé, on a tout un chemin qui nous est tracé en quelque sorte, tandis que le conjoint, il est plus sur le côté, en fait, même s'il nous accompagne. J'ai bien conscience que ce n'est pas facile, et c'est important, en avoir conscience, c'est très important. Ça permet de nous raccorder l'un à l'autre aussi.
Oui, c'est vrai que moi, j'étais à la fois le médecin, mais en même temps l'aidant, et c'est vrai quand on est en tant que médecin aidant, c'est pas facile, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un petit problème qui apparaissait, j'ai évalué tout de suite la gravité des choses, et en me disant, bon, soit qu'est-ce qui va se passer demain, ça va être terrible, et je conçois que pour l'aidant, quel qu'il soit, c'est difficile, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui survient, on se dit tout de suite, ça va mal se passer, et qu'est-ce qu'il faut faire, et on est encore plus anxieux, et c'est pour ça que c'est important de partager à la fois le diagnostic et les problèmes qui se posent, pour les poser tranquillement et résoudre ensemble. Mais il faut aider les aidants. Moi, j'ai eu moins de mal que d'autres, parce que je savais ce qu'il fallait faire. Et en réfléchissant petit après à ma position, et voyant les problèmes que ma femme a présentés, je me dis, comment fait quelqu'un qui n'est pas médecin auprès de son malade pour pouvoir répondre aux problèmes qui se posent? Il faut vraiment que l'environnement médical soignant soit vraiment à la hauteur pour faire face aux difficultés que tout malade cancéreux rencontre. Mais c'est possible, parce que les équipes en cancérologie sont en général très bien formées, très dynamiques, et moi, ce que j'ai traversé en 40 ans, c'est quelque chose de très positif, et je voudrais dire aux malades qu'il faut vraiment penser que ça se passera le mieux possible, dans un contexte peut-être plus difficile actuellement, mais qui est quand même très positif, et je trouve qu'en cancérologie, actuellement, les prises en charge sont quand même de bonne qualité, mais il ne faut pas oublier les aidants, qui eux aussi ont besoin d'un soutien.
Alors, c'est vrai, oui. Cela nous aide à accepter la maladie, en fait. Cela nous aide énormément à l'accepter.
C'est important, cette étape de l'acceptation de la maladie, pour finalement aller jusqu'au bout et puis traverser le combat. Hein.
Oui, c'est... absolument. C'est à partir du moment où on accepte, où on n'est plus dans le déni, on peut envisager les choses, on peut s'ouvrir à beaucoup de choses, et cela nous donne beaucoup de force.
Vous parlez vous-même de déni. Je ne vous ai pas posé la question tout au début de votre témoignage. Vous avez vécu cet épisode de déni en 2006, dans les tout débuts.
Je ne l'ai pas vécu. J'ai été plutôt dans la colère, peut-être, dans un peu de colère à un moment donné. Puis cela est tombé, parce qu'il n'y a pas le choix. On est obligé de l'accepter, on est obligé d'aller de l'avant. Et on est beaucoup plus juste dans son attitude. Et on peut combattre, je pense, encore mieux la maladie si on a cette attitude aussi juste que possible. Et on reçoit d'autant mieux les conseils qui nous sont donnés. On est beaucoup plus ouvert.
Alors, il y a un seul point qui est important. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, pour le cas particulier de mon épouse, elle a renoncé au traitement au moment où il y avait une rechute. Il faut dire que les décisions qui sont prises sont individuelles. Et pour chaque personne, ça peut être différent. Il y a des personnes qui veulent continuer le traitement malgré la perspective d'un échec, parce que pour eux, c'est vital d'avoir un soin. Ça leur donne un espoir supplémentaire. Et il ne faut pas aller contre la décision du patient. Toutes les décisions doivent être prises conjointement, malade, médecin et famille, pour que ça soit bien clair, justement, dans les esprits, et que les choix soient acceptés et d'une manière positive. Quelqu'un qui va échapper à un traitement mais qui veut une chimiothérapie, si ça lui donne un soutien moral et une perspective de vie qui va pouvoir maîtriser de cette manière-là, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est du compassionnel, et donc le compassionnel est aussi important que d'autres positions où on est plus radical et on arrête, mais avec l'accord du patient et de sa famille.
Alors, pour terminer un petit peu ce Vivant Église, merci à tous les trois. C'est presque une ordonnance médicale, permettez-moi, avec un peu de légèreté, mais d'humour, puis dans l'espérance. Et c'est bien lourd, de Cancer Espérance, avec l'association que je reçois dans cette émission. Docteur Hervé Gauthier, une ordonnance médicale pour nos auditeurs, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas les dossiers médicaux de nos auditeurs. Certains traversent peut-être l'épreuve même en ce moment de l'irruption d'un cancer, d'une maladie grave, voire peut-être incurable. D'autres sont des aidants, des proches, des familles, un peu démunis. Donc une ordonnance maintenant aujourd'hui prescrite par le docteur Hervé Gauthier. Et je terminerai avec le président de Lourdes Cancer Espérance.
Je crois que l'ordonnance, c'est d'avoir une relation la plus vraie et la plus proche avec à la fois les soignants et la famille. Et donc la prescription, c'est le dialogue. Et le dialogue avec, au bout, le respect de la vie et jusqu'au bout, quelle qu'elle soit, quel que soit le bout, court ou lointain.
Merci docteur Hervé Gauthier, merci Daniel, et je me tourne le mot de fin vers le président Pierre A, président de Lourdes Cancer Espérance. Mot de fin pour ce Vivant Église.
Je reprends ma petite phrase du début, oser l'espérance, oser la confiance, oser venir à Lourdes pour se mettre sous la protection de Marie, Notre-Dame, notre mère à tous. Voilà, c'est une protection et c'est un site qui donne confiance, qui apaise et qui permet effectivement de vivre ce que l'on a à vivre. Voilà, oser la confiance, quoi qu'il arrive.
Et lieu de grâce.
Et lieu de grâce.
Lieu de grâce.
Tout à fait.
Alors on peut inviter dans quelques mois, ce pèlerinage national avec l'association de Lourdes Cancer Espérance a lieu toujours mois de septembre, la troisième semaine de septembre. Et on peut visiter aussi le site de l'association de Lourdes Cancer Espérance. Merci à tous les trois. Je vous souhaite un très très beau pèlerinage. Merci aussi de vos paroles de vérité et puis vos témoignages respectifs. Au fond, oser la confiance, oser l'espérance et oser la vie jusqu'au bout. Merci à tous les trois.
Merci à vous.
Merci.